au columbarium, au columbarium.
Bonjour à tous, jeudi 10 novembre, il est 16h, dernière édition du débrief pour cette semaine. Accrochez-vous bien à la fréquence 107,9 CILSFM.ca sur Internet. Nous avons un menu chargé aujourd'hui au surlendemain de l'élection américaine de mardi. En fin d'émission, je rejoins Nathalie Leduc, une collaboratrice du débrief qui est actuellement à Los Angeles. Nathalie nous livrera ses impressions de la soirée électorale dont elle a été témoin aux premières loges. Tout de suite, la parole est au collaborateur Denis Lépine qui nous livre ses deux bulletins d'information quotidien. Je vous retrouve dans quelques minutes avec la météo détaillée. Il y aura aussi l'habituel radio-journal des Nations Unies, les nouvelles provinciales et bien d'autres infos. La production du débrief est rendue possible grâce au financement du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Publication des résultats de l'enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues de 2015. Statistique Canada a indiqué que son document a sondé les Canadiens de 15 ans ou plus, surtout chez les jeunes de 15 à 24 ans. On y apprend que l'usage du tabagisme est passé de 15% en 2013 à 13% en 2015, soit 3 800 000 Canadiens. L'enquête révèle que le résultat découle d'une baisse de la prévalence du tabagisme chez les jeunes de plus de 25 ans. On dénote à l'inverse une hausse de 13% de l'usage des cigarettes électroniques. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, est toujours en Inde. Le ministre s'est rendu à Bengaluru pour renforcer le partenariat entre le Canada et l'Inde dans la sphère de l'innovation. Le ministre Bains a visité l'Institut de recherche Raman. Le ministre a également rencontré Kiran Kumar, président de l'Agence de recherche spatiale de l'Inde. À cette occasion, le ministre a fait valoir les forces de l'Agence spatiale canadienne et a discuté des possibilités de coopération dans le domaine spatial. L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada s'est prononcé sur le plan national de protection des océans du gouvernement de Justin Trudeau. Debbie Davio, présidente de l'organisme, a déclaré que les membres croient qu'il est primordial de procéder à l'embauche d'au moins 150 scientifiques pour compenser l'élimination des dernières années des postes de professionnels à la garde côtière canadienne et au ministère des Pêches et des Océans. Dans le cadre de cette initiative, Ottawa a annoncé une enveloppe de 1,5 milliard de dollars sur 5 ans à la garde côtière canadienne et au ministère des Pêches et des Océans. Conférence sur l'entrepreneuriat des femmes canadiennes. Bardish Jagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, a dit que les femmes sont au cœur de l'économie canadienne. L'événement organisé à Toronto a vu aussi la ministre mentionner que la Banque de développement du Canada est en bonne voie de devenir un chef de file mondial en ce qui a trait au soutien aux entrepreneurs. Dans son appel à l'action, bien Bardish Jagger a indiqué qu'à la suite de ses discussions avec la banque, eh bien cette dernière va s'employer à devenir un institut financier phare à l'échelle mondiale en matière de soutien aux femmes propriétaires d'entreprises. Le président Barack Obama doit recevoir aujourd'hui le président élu Donald Trump. La rencontre aura lieu à la Maison-Blanche. Il est prévu que le président Obama abordera les prémices du changement de pouvoir avec l'homme d'affaires, comme cela se fait à chaque fois qu'un nouveau président doit faire son entrée à la Maison-Blanche. Le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada a fait le point sur la deuxième mission en Chine de Lawrence Macaulay. Le ministre a déclaré que la Chine est un marché d'exportation crucial pour les producteurs et les exportateurs agricoles canadiens. Il a ajouté que cette importante relation commerciale va renforcer l'ensemble de l'économie canadienne et la classe moyenne du pays. Au cours de sa mission de 10 jours, Lawrence Macaulay a notamment participé à 2 salons commerciaux visant à promouvoir les produits canadiens. Le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, a réaffirmé l'engagement du Canada envers le multilatéralisme lors de son passage au Mali et au Sénégal. Le ministère a précisé dans un communiqué que le ministre Sajjan a saisi l'occasion de faire avancer la relation de défense du Canada avec les 2 pays africains et de discuter des manières que le Canada peut contribuer à la paix et à la stabilité dans ce coin de l'Afrique. L'Office des transports du Canada vient de publier son rapport annuel 2015-2016. Le document fait le tour des activités des mandats fondamentaux de l'Office, entre autres la protection du droit fondamental des personnes ayant une déficience à un réseau de transport accessible. L'Office précise avoir pris part à la négociation et à la mise en œuvre d'accords en tant que membre de l'équipe de négociation du gouvernement du Canada. Au sport au hockey, bien victoire d'Ottawa, 2-1 contre Buffalo. Chicago a eu raison de Saint-Louis également par la marque de 2-1 et Columbus 3, Anaheim 2. Ce soir, Los Angeles sera à Montréal. Rappelons que le Canadien n'a toujours qu'une seule défaite en temps réglementaire cette saison. Vancouver sera à Détroit, l'Arizona recevra Winnipeg et Dallas sera à Calgary. Hier, victoire impressionnante de Toronto dans la NBA, 112-102 contre Oklahoma City. Et ce soir, dans la NFL, une rencontre, Cleveland sera à Baltimore.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Il est 16h05. On va se tourner vers la météo. Le mercure affiche actuellement au centre-ville 12 degrés. C'est nuageux, pas de pluie à l'horizon. Cependant, en soirée et durant la nuit prochaine, on aura de la pluie intermittente avec un maximum de 9 degrés. Demain, vendredi, le mercure atteint 14 degrés. On annonce de la pluie au cours de la journée et le scénario se reproduit à l'identique au cours des prochains jours et même jusqu'à mercredi prochain. Je suis sur la page d'Environnement Canada dans le portail météo.gc.ca et les pictogrammes de pluie s'alignent identiques jusqu'à mercredi prochain, le 16 novembre, donc avec des températures qui oscilleront entre 10 et 14 degrés. Donc des nuages qui sont installés à demeure pour les prochains jours dans la région sud de l'île de Vancouver. Et si on jette un petit coup d'œil au radar actuellement, la pluie tombe sur la région centre de l'île de Vancouver, donc du côté de Port Alberni, Nanaimo. Il n'y a pas de pluie actuellement dans le sud de l'île et dans la région du Grand Victoria. Donc je répète, pour ce soir, maximum de 9 avec de la pluie intermittente. Et demain, vendredi, jour du souvenir, 14 degrés avec de la pluie en cours de journée. On se rend tout de suite au bulletin des Nations Unies. On se retrouvera de l'autre côté avec les nouvelles du jour. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies. Avec en titre, l'ONU réclame l'approbation d'un plan d'acheminement d'aide humanitaire pour l'Est d'Alep. Gros plan sur la semaine de la police de l'ONU, la rougeole qui tue encore trop d'enfants dans le monde. Et il sera aussi question du rôle des villes dans la lutte contre les changements climatiques. On commence avec la Syrie. Avec l'approche de l'hiver, l'ONU réclame l'approbation par les parties au conflit d'un plan d'acheminement d'aide humanitaire pour l'Est d'Alep, avertissant qu'une alternative risque d'être catastrophique. C'est ce qu'a indiqué jeudi à Genève Jan Egeland, le conseiller spécial de l'envoyé spécial pour la Syrie, à l'issue d'une réunion du groupe de travail sur l'accès humanitaire dans le pays. Les rations alimentaires encore disponibles dans l'Est d'Alep sont sur le point d'être épuisées. Alpha Diallo.
C'est un nouveau cri d'alarme que lance jeudi à Genève l'équipe de Stéphane de Mistura concernant la situation humanitaire en Syrie. Le conseiller spécial du médiateur de l'ONU s'est inquiété du sort de ses habitants qui souffrent d'un manque de nourriture, d'eau et de médicaments. Et Yann Egaland redoute surtout que l'arrivée de l'hiver aggrave leur situation et menace encore un peu plus la vie des millions de Syriens. Car sur le terrain, il n'y a plus rien à distribuer dès la semaine prochaine dans les quartiers rebelles d'Alep Est. En effet, l'ONU n'est pas parvenue à acheminer de l'aide sur place depuis début juillet et les dernières rations alimentaires disponibles sont présentement en train d'être distribuées. Et pour éviter une famine de masse et un hiver plus douloureux, l'ONU a lancé la semaine dernière une nouvelle initiative en 4 points pour Alep Est. Les Nations Unies demandent ainsi à toutes les parties d'autoriser l'acheminement de l'aide médicale, d'une assistance humanitaire, de permettre l'évacuation d'environ 300 malades blessés et d'autoriser du personnel médical à entrer à Alep Est. Par ailleurs, Yann Egeland rappelle que la situation est tendue dans la partie ouest de cette ville et elle est également diffusée dans le reste des zones assiégées du pays, notamment à Madaya, Zabadani, Al-Foua et Kefreya. Alpha Diallo, Genève, pour la radio des Nations Unies.
Comme chaque année, les Nations Unies organisent début novembre la semaine de la police de l'ONU pour mettre en avant le travail méconnu des forces de police au sein des opérations de maintien de la paix. À ce titre, le Conseil de sécurité a entendu ce matin quatre chefs de la police civile faire le point sur la protection des civils, l'édification des capacités policières, la sécurité du personnel et les problèmes de conduite et de discipline, sans oublier la problématique du genre. Une question sur laquelle le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Hervé de Latsous, a particulièrement insisté.
Il faut que nous ayons davantage de femmes pour tenir les postes. Nous sommes parvenus à un pourcentage de 20% de femmes parmi les officiers de police individuels. Et c'est conforme à l'objectif qui a été fixé par le secrétaire général. Mais il nous faut faire mieux, comme il nous faut faire encore beaucoup mieux sur le plan des unités constituées de femmes. Je les ai vues sur le terrain, au Libéria, au Congo, en Haïti. Ça répond à un vrai besoin, mais nous n'avons que 7%, encore une fois, de femmes parmi les unités constituées. Ça n'est pas suffisant parce que on a besoin de ces instruments de dialogue, mais aussi de partage d'informations sur le terrain, et que les femmes sont particulièrement à même de le faire.
En dépit d'une réduction de 79% dans le monde, la rougeole tue encore 400 enfants par jour. C'est ce que révèle une nouvelle étude publiée jeudi par l'OMS, le CDC, UNICEF et Gavi. Si des campagnes de vaccination de masse ont permis de sauver la vie à plus de 20 millions d'enfants entre 2000 et 2015, cette année-là, 20 millions d'enfants n'ont pas pu être vaccinés et 134 000 ont succombé à la maladie. Fonctionnaire principal chargé de la santé, le docteur Richard Kezala revient sur les défis à relever.
Les défis sont multiples, mais le premier, c'est l'engagement politique. Ce sont les gouvernements qui sont responsables de la vaccination de leurs enfants. Et le vaccin contre la rougeole ne coûte pas très cher, environ 50 cents par enfant. Le vaccin lui-même peut coûter 24 cents, et les frais opérationnels comme le déplacement des vaccinateurs peuvent y ajouter 20 cents. Mais cet argent n'a pas été mobilisé. L'autre chose, c'est que tout le monde doit participer. Nous mobilisons des ressources en tant qu'agence onusienne pour aider les pays pauvres, mais au cours de la dernière décennie, les ressources mobilisées à l'échelle mondiale ont baissé. Enfin, il y a la faiblesse des systèmes d'immunisation et de fourniture de soins de santé, ainsi que les conflits. Des régions du Moyen-Orient qui avaient de bons systèmes de couverture sont revenues en arrière. Voyez l'Irak, la Syrie ou certaines parties du Yémen.
Enfin, à Marrakech, où se déroule la COP22, c'était la journée mondiale d'action climatique consacrée aux villes et aux établissements humains. Les zones urbaines représentent environ 70% des émissions mondiales et leur action climatique est donc importante pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Jacqueline McGlade, scientifique en chef du programme de l'ONU pour l'environnement, fait le point sur l'impact du bâtiment.
Si chaque nouveau bâtiment était essentiellement conçu autour de chauffage passif, cela pourrait déjà réduire la consommation électrique de 30 à 40%. Le problème est bien sûr que ce genre de bâtiment coûte beaucoup plus cher au départ. Mais quand on pense à la conception, la modernisation profonde est en fait presque plus efficace parce que l'on utilise essentiellement des coûts de construction non récupérables et l'on fait en sorte ensuite qu'ils soient utilisés aussi efficacement que possible. Donc, que ce soit la conception d'anciens ou de nouveaux bâtiments, ils peuvent vraiment représenter l'un des grands processus de transformation pour les 20 à 30 prochaines années. Ce qu'il ne faut cependant pas oublier, c'est qu'il faut mettre en place des systèmes de transport efficaces autour de ces bâtiments et que l'on assure aussi l'aspect social pour que lorsque les gens décident où ils veulent vivre, ils aient l'impression que tous les services sont à portée de main.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur la semaine de la police civile de l'ONU. Le Conseil de sécurité a donc entendu ce matin quatre chefs des composantes de police civile d'opérations de maintien de la paix, mais en fait une bonne quinzaine d'entre eux sont réunis à New York pour faire le point et partager leurs expériences. Parmi eux, Jean-Marc Lafont, qui dirige la police de l'ONUCI, l'opération de l'ONU en Côte d'Ivoire, dont le mandat arrivera en terme en avril prochain. Une échéance qui s'ajoute aux autres défis rencontrés par le commissaire français et son équipe, comme il l'a confié confiée au micro de Jérôme Longuet.
C'est d'abord un mandat qui est marqué par la fin de la mission. C'est donc un mandat qui nous invite à finaliser les chantiers qui avaient été mis en œuvre en termes de reconstruction des capacités, en termes de formation. Et nous sommes bien évidemment invités maintenant à passer le relais aux autorités ivoiriennes afin que ces dernières fonctionnent de façon autonome après avril 2017, qui sera la date de notre départ.
Souvent, les commandants de force mettent l'accent sur la proximité de ces forces de police par rapport à la population notamment. Autant les casques bleus sont présents et sont connus, autant c'est moins connu de l'extérieur, on va le dire. Les forces de police sont en contact quotidien avec la population. Est-ce que c'est également le cas en Côte d'Ivoire ?
Alors, ça a été le cas de façon continue au cours des années écoulées. Depuis plusieurs mois, et à vrai dire depuis notre dernier mandat, nous avons été invités à orienter notre action à un niveau plus stratégique. Nous quittons le terrain pour se rapprocher des préfectures de police et des légions de gendarmerie. Ce détachement du terrain est lié à un souci de passation de relais à un niveau qui soit désormais un niveau stratégique et non plus à un niveau de terrain.
Est-ce que ça veut dire donc dans cette sorte de compte à rebours que vous êtes obligé maintenant de mettre l'accent sur la formation, sur ces différents éléments qui font que fin avril, la mission arrêtera ses activités et que tout sera transféré donc aux autorités ivoiriennes ?
Oui, alors ce compte à rebours génère chez nous un désir effectivement de finaliser ce qui a été commencé, mais il ne faut pas non plus qu'on se berce d'illusions dans la mesure où les chantiers de la réforme, les défis de la formation resteront ouverts. Et il est vrai que nous souhaitons que notre partenaire ivoirien soit à même de relever ces défis et soit à même de gérer ces chantiers. Pour autant, ils ne seront pas seuls car après notre départ, les équipes pays de l'ONU restent sur place et les acteurs des différentes coopérations telles que l'UE ou les coopérations bilatérales seront encore là. Donc nous ne laisserons pas les Ivoiriens, nos partenaires, réellement seuls. L'ONU s'en va, mais les mécanismes de coopération multiples demeureront.
Alors, vous avez été en Côte d'Ivoire depuis mars 2014. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience en termes de police ? Qu'est-ce qui a pu justement être mené, également avec l'aide de vos prédécesseurs ?
Ce pays avait été gravement affecté par la crise politique et les affrontements qui s'en étaient suivis. Et c'est un pays qui, d'un point de vue sécuritaire, était littéralement disloqué. Les forces de sécurité, les forces en charge de la sécurité, avaient perdu la confiance de la population. Je crois que depuis que je suis arrivé, j'observe que ce processus de reconstruction de la confiance est en marche, même s'il reste encore beaucoup à faire, parce que la confiance, par définition, ça ne se postule pas, ça se construit dans la durée, dans l'action. Donc le défi devra être relevé par les autorités policières et de gendarmerie ivoirienne, par le ministère de l'Intérieur aussi. C'est un défi majeur.
Et c'est avec Jean-Marc Lafont que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
L'info se poursuit dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Merci de nous écouter. Il est 16h17 ou encore en rediffusion dans la matinée du 11 novembre. Bienvenue dans l'émission. On va passer aux nouvelles provinciales. Grosse victoire pour les enseignants de la province. La Cour suprême du Canada a donné raison à la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, la BCTF, dans le dossier du droit de négocier le nombre d'élèves en classe et la composition des classes. La plus haute juridiction du Canada a rendu sa décision surprise jeudi matin, aujourd'hui, en moins d'une heure d'audience. Le syndicat ne s'attendait pas à une réponse avant le printemps. Nous sommes très heureux pour nos membres et de résoudre ceci une fois pour toutes, a déclaré Glenn Hansman, qui préside le syndicat. Le gouvernement provincial n'a pas encore réagi, mais des négociations devraient commencer pour voir quels services peuvent être rétablis dans les écoles. La dispute remonte à 2002, lorsque Victoria avait légiféré pour retirer ce droit aux enseignants. Donc le droit de négocier le nombre d'élèves en classe et la composition des classes. Donc les enseignants se battent depuis 2002 devant la justice pour faire modifier cette loi provinciale. À cette époque, le gouvernement de Colombie-Britannique avait passé deux lois entourant les conventions collectives signées à avec les employés du secteur public travaillant dans le domaine de l'éducation, la législation avait retiré quelques termes et empêché toute future négociation sur certains dossiers. En 2011, la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait statué que la législation était inconstitutionnelle car elle ne respectait pas la Charte canadienne des droits et libertés. Le tribunal avait suspendu sa décision pendant 12 mois pour que la province analyse sa décision. La province et les enseignants ont ensuite essayé de trouver un accord commun, en vain. Donc voilà, on est parvenu au terme du processus judiciaire. C'est la Cour suprême qui a le dernier mot et la Cour a effectivement donné raison à la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique. Vous trouverez cette nouvelle sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Toujours dans le portail de Radio-Canada, on trouve également une nouvelle sur le barreau de la province. Le barreau de la Colombie-Britannique fait appel de la décision sur Trinity Western. Le barreau de la Colombie-Britannique a annoncé son intention de faire appel de la décision rendue la semaine dernière qui l'obligeait à reconnaître les futurs avocats formés dans l'établissement chrétien situé à Langley, au sud-est de Vancouver. Confirmant un jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2015, la Cour d'appel provinciale a jugé le 1er novembre que la position du barreau était déraisonnable. Ce dernier veut donc désormais s'en remettre à la Cour suprême du Canada, estimant qu'il s'agit d'une question d'importance nationale. Le débat porte sur l'obligation qu'ont les étudiants de l'Université Trinity Western de s'engager à ne pas avoir de relations sexuelles en dehors des liens du mariage entre un homme et une femme. Le barreau de la province de Colombie-Britannique estime que cette obligation est discriminatoire envers les homosexuels et les lesbiennes qui souhaitent devenir avocats. La faculté de droit de Trinity Western, notons-le, n'est pas encore ouverte. C'est une faculté qui va ouvrir ses portes au cours des prochains mois. Santé publique maintenant, une nouvelle qui aura de quoi réjouir les autorités sanitaires de la province. Le nombre de fumeurs de cigarettes a continué de diminuer et il est très faible. Il est très petit ce nombre de fumeurs ici en Colombie-Britannique. Je vous lis l'article paru dans la presse canadienne. Le nombre de fumeurs de cigarettes a continué de diminuer au Canada entre 2013 et 2015, mais on note une légère augmentation chez les gens âgés de 20 à 24 ans. Les données rendues publiques par Statistique Canada cette semaine démontrent qu'en 2015, 13% des Canadiens de 15 ans et plus, soit 3,8 millions de personnes, fumaient la cigarette, comparativement à 14,6% ou 4,2 millions de Canadiens en 2013. Parmi ces fumeurs, 2,8 millions se disaient fumeurs quotidiens, ce qui est un recul par rapport à 2013, alors que le nombre de fumeurs occasionnels est demeuré stable à 3,7%. Voilà, et surtout, l'article souligne que c'est en Colombie-Britannique que les taux les plus faibles sont observés, donc 10,2% seulement de fumeurs. L'Ontario arrive au second rang avec 11,3%, alors que les taux les plus élevés ont été enregistrés à Terre-Neuve-Labrador, 18,4%, et en Nouvelle-Écosse, 17,8%. On revient sur ce naufrage d'un remorqueur de pétroliers à proximité de Bella Bella sur le littoral centre de la Colombie-Britannique. Ça fait un mois maintenant que ce navire s'est échoué et les opérations de nettoyage se poursuivent. On tente de tirer le remorqueur, oui, jusqu'à la berge et c'est des opérations qui sont rendues difficiles par les conditions météorologiques qui ont freiné les efforts. Donc, vous trouverez un article dans la Canadian Press, Tug Recovery near Bella Bella still hampered by stormy weather. Donc, la météo contraire, la météo difficile rend les opérations de nettoyage difficiles du côté de Bella Bella. Il y a également un article dans le Times Colonist aujourd'hui sur ce sujet. Donc, voilà un mois que ce naufrage a eu lieu. Heureusement que ça n'était pas un pétrolier transportant du pétrole et simplement un remorqueur. Il y avait tout de même 200 000 litres de diesel à bord de ce remorqueur. une certaine portion de ce diesel a pu être récupérée. Cependant, une autre portion, une large portion, s'est déversée dans les eaux avoisinantes. On sait que c'est la saison de la pêche à la palourde dans cette région et les activités ont été compromises dans cette région. Sinon, toujours en santé publique, je voulais vous mentionner que le ministre de la Santé a rendu visite aux pompiers de Vancouver pour prendre connaissance de leurs expériences et de leurs observations au cours des derniers mois. On sait que les pompiers sont appelés à intervenir dans de nombreux cas de surdose de drogue et la province de Colombie-Britannique est en état d'urgence sanitaire actuellement en raison du très grand nombre de surdoses mortelles cette année. On a brisé le triste record de l'année dernière. On est maintenant autour de 560 décès par overdose. Donc c'est la ministre Jane Philpott, qui est la ministre fédérale de la Santé, qui s'est rendue aujourd'hui sur le terrain à Vancouver où sévit le plus durement cette crise des surdoses. Elle a rencontré des agents municipaux et provinciaux. Elle a rencontré des pompiers et des membres du corps policier afin de prendre connaissance de leur rétroaction, de leurs commentaires sur la situation critique des surdoses. On s'arrête quelques instants pour faire une petite pause musicale. On va écouter une formation qui s'appelle Macabane, la formation s'appelle Chandail de loup, pardon. Et la pièce s'intitule « Je roule comme un fou ». On se retrouve dans 3 minutes 50.
Je roule comme un fou et n'amasse pas de mousse. Au moins mon corps est pas trop mou. C'est par en dedans que ça pousse. Si tous les métiers s'apprennent, moi j'ai surtout appris à tous les quitter. Je peux faire rouler comme un fou, ne pas amasser de mousse. Ça m'en prenait un pour mes dans la gang. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Bien caché dans mon lit, perdu dans mes souvenirs. À ceux qui sont levés aujourd'hui, je laisse l'avenir. Je prends même plus la peine de remettre les choses à demain. Je me dis que le temps va bien s'en occuper. Je préfère rester au lit, oublier demain. Ça n'en prenait un retard dans la gang. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Apporte rien du tout. Je suis pas plus heureux qu'avant. J'ai juste l'esprit un peu plus tranquille. Ça doit être la sagesse d'arrêter de croire au bonheur sans arrêter d'être un petit peu heureux. Je roulerai comme un fou, n'amasserai pas de mousse.
moi mon corps sera pas trop mou. C'est dans ta tête ça pousse. Il est jamais trop tard pour faire quelque chose de bien. Je prends ma guitare et compose un refrain qui commence par le premier jour du reste de ma vie.
Chandail de loup dans le débrief, il est 16h29. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 en direct à 16h29 ou encore en rediffusion dans la matinée du 11 novembre. C'est le moment de passer à la nouvelle du jour et il est impératif de revenir sur l'élection présidentielle de mardi. Ça occupe encore l'actualité. Bien sûr, ça fait les manchettes. On a pu assister aujourd'hui à une scène que peu de gens avaient cru possible. Trump et Obama assis côte à côte dans la même pièce, le président Obama et le président élu Donald Trump, qui se rencontraient aujourd'hui pour poser les bases de la transition présidentielle. On sait que le président aux États-Unis est élu début novembre et il entre en fonction le 20 janvier de l'année suivante. Donc Obama est en place pour son second mandat depuis le 20 janvier 2012. Et Trump, lui, prendra le relais le 20 janvier 2016. Donc, plusieurs papiers aujourd'hui dans la presse internationale. Je vous cite quelques passages de l'article qu'a signé le correspondant de l'agence France Presse à Washington, Jérôme Cartillier. On retrouve ce papier un peu partout dans les médias francophones. Je l'ai trouvé dans le journal Le Devoir. Le titre qu'a choisi Le Devoir est très bien. Obama et Trump jouent la transition apaisée. En effet, la réunion n'a pas donné lieu à des altercations. Les deux hommes ont voulu apparaître conciliants et apaisés. Donc, je vous lis quelques passages de ce papier signé Jérôme Cartillier. Assis côte à côte dans le bureau ovale, image longtemps inimaginable, Barack Obama et son successeur Donald Trump se sont efforcés jeudi de mettre de côté des mois de campagne acrimonieuse, insistant sur leur volonté de mener une transition apaisée. « Monsieur le Président, c'était un grand honneur d'être avec vous », a déclaré sur un ton très posé, presque intimidé, le républicain élu Donald Trump, après avoir largement mené sa campagne sur une rhétorique incendiaire. Vous vous rappellerez peut-être, en parenthèse, que Donald Trump avait notamment accusé Obama d'avoir été le fondateur de l'État islamique, entre autres sorties extravagantes de la part du magnat de l'immobilier. Je continue la lecture de ce texte. L'extravagant milliardaire populiste qui prendra ses fonctions le 20 janvier s'est dit impatient de recevoir les conseils de celui qu'il avait qualifié de président le plus ignorant de l'histoire. Barack Obama a pour sa part évoqué une excellente conversation avec celui dont il a dit il y a quelques jours qu'il représentait une menace pour la démocratie américaine. « Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour vous aider à réussir à... » a-t-il ajouté à l'issue de ce tête-à-tête de 90 minutes. Le tribun populiste Donald Trump, âgé de 70 ans, sera le plus vieux président à entrer à la Maison-Blanche. Il n'a jamais occupé de fonction élective auparavant, signale Jérôme Cartillier dans cet article paru dans le fil de l'agence France Presse. Et j'ai assisté en accéléré à cet échange public entre Trump et Obama sous la mitraille de flash des photographes. Et Trump a notamment dit qu'il pensait que cet entretien allait durer 10 à 15 minutes et s'est dit agréablement surpris d'avoir poussé la durée de l'entretien au-delà des 90 minutes. Les deux hommes semblaient très détendus devant les journalistes. Donc peut-être que c'est un signe encourageant pour la démocratie américaine. Vous trouverez cet article dans Le Devoir sous le titre « Obama et Trump jouent la transition apaisée ». Sinon, Sinon, on a dans la presse canadienne un article intitulé « Justin Trudeau confirme que le Canada est prêt à renégocier l'ALENA ». L'ALENA, c'est l'accord de libre-échange nord-américain qui réunit le Canada, les États-Unis et le Mexique. On sait que l'ALENA a été la cible de critiques impitoyables de la part de Donald Trump au cours de la campagne électorale. Donc, Justin Trudeau a effectué une déclaration aujourd'hui au sujet de l'ALENA, disant qu'il est prêt à renégocier l'ALENA. Je crois qu'il est important que nous soyons ouverts à discuter des accords commerciaux comme l'ALENA ou tout autre accord commercial, a déclaré Justin Trudeau aux journalistes lors de la réouverture d'un bureau d'anciens combattants du Canada à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, jeudi, le président américain désigné Donald Trump avait promis durant sa campagne de renégocier l'ALENA et d'autres accords commerciaux, et l'ambassadeur du Canada à Washington, David McNaughton, a déclaré mercredi que le Canada était prêt à prendre place à la table de négociation. Donc, une politique d'ouverture de la part du gouvernement Trudeau face à la position, à la posture protectionniste de Donald Trump. Donc, c'est à suivre, un dossier à suivre, assurément. On y reviendra. En attendant, on fait une petite pause musicale. On reprend son souffle avec une formation qui s'appelle L'Homme Brun. La pièce s'intitule L'Imberbe. On se retrouve dans quelques minutes. Formation L'Homme Brun dans le débrief à 16h37. Merci de nous écouter en direct ou en rediffusion dans la matinée du 11 novembre. On a 12 degrés actuellement au centre-ville de Victoria. C'est le week-end qui va commencer pour plusieurs d'entre vous. Excellent week-end à tous. L'émission se poursuit. On va passer à la revue de presse des éditoriaux. On va essayer de coincer deux ou trois éditoriaux dans le déroulement minuté de l'émission. Commençons tout de suite avec Michael Moore qui nous propose une cure de lendemain de veille. C'est ce que suggère le documentariste et pamphlétaire, donc Michael Moore, qu'on connaît pour nous avoir donné notamment Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 et Roger and Me, des documentaires qui ont fait date aux États-Unis et dans le monde. C'est un progressiste avoué qui n'a pas la langue dans sa poche, et il a publié beaucoup de textes durant la campagne campagne, il a fait campagne pour Hillary Clinton, et au lendemain de la défaite de la candidate démocrate, il a pondu un texte très emporté. C'est presque un pamphlet, un manifeste. J'ai trouvé ce texte sur le portail Zero Hedge, mais le texte s'est répandu un petit peu partout sur Internet. Vous le trouverez aisément. Donc, c'est numéroté. Ça s'intitule Five Reasons Why c'est un manifeste qui est un peu la suite d'un texte qu'il avait intitulé il y a une quinzaine de jours « Five Reasons Why Donald Trump Will Win ». Donc, il ne s'était pas trompé, contrairement à plusieurs de ses compatriotes. Il avait correctement prédit l'issue de l'élection. Il avait correctement prédit la victoire de Donald Trump. Donc, ce texte de lendemain de veille, c'est un texte de gueule de bois, si vous voulez. C'est écrit dans le style du manifeste avec des sommations, des demandes impératives et c'est numéroté. Alors, numéro 1, Michael Moore dit qu'il faut vraiment reprendre le Parti démocrate et le rendre au peuple. Alors, c'est tout si simple que ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, il faut licencier, congédier tous les commentateurs, tous les pronostiqueurs, tous les sondeurs et tous les membres de la sphère médiatique qui avaient déjà établi l'histoire de cette élection et qui avaient prédit un scénario de victoire à Hillary Clinton. Alors, ces gens ont eu tout faux, évidemment. Ils s'accrochaient à leur fiction et refusaient d'entendre les signaux inquiétants qui leur parvenaient du terrain et de la base. Donc ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, il faut qu'absolument tous les membres démocrates du Congrès américain qui ne se sont pas réveillés le 9 novembre au lendemain de l'élection avec une détermination implacable de se battre, de résister et de faire obstruction aux républicains, comme les républicains avaient fait obstruction au président Obama, eh bien, ceux qui n'ont pas la vocation, dit Michael Moore dans ce texte, en point numéro 3, alors écartez-vous de notre chemin. Alors, je le cite, c'est vraiment ce qu'il dit à ses membres du Congrès qui voudraient pactiser et peut-être apaiser le parti adverse. Donc, step out of the way, c'est carrément la sommation que lance Michael Moore à ses membres du Congrès qui sont démocrates et qui seraient peut-être un petit peu trop mous. Numéro 4, tout le monde doit cesser de dire à quel point ils sont renversés, sidérés, estomaqués par le résultat de l'élection. Ça suffit maintenant, dit Michael Moore. Il faut passer aux vraies affaires, entre guillemets. Donc, il faut retourner au boulot et sortir de la bulle dans laquelle le Parti démocrate, une bulle qui était abstraite de la réalité. Alors, il faut éclater la bulle et sortir dans le monde réel et arrêter de dire qu'on est sous le choc. Numéro 5, et c'est le dernier point dans ce texte très relevé de Michael Moore, le documentariste américain de réputation de renommée mondiale. Alors, il faut rappeler à tout le monde, dit Michael Moore, que la candidate Clinton a gagné le vote populaire. Ça veut dire qu'elle a eu une majorité de votes sur son adversaire. C'est elle qui a remporté le vote populaire, comme l'avait fait son prédécesseur Al Gore, il y a de cela 4 ou 5 cycles électoraux, en 2000. En effet, Al Gore, candidat malheureux du Parti démocrate, avait gagné le vote populaire, mais n'avait pas réussi à gagner les votes du collège électoral. Et c'est le système américain qui le veut ainsi. Ce sont les États qui ajoutent leurs votes un par un. Et cette addition ne correspond pas forcément au vote populaire. Et Michael Moore en profite pour ironiser et ridiculiser ce système archaïque et complexe, schizophrène même, insane selon ses termes. Voilà, donc rappeler à tout le monde que Clinton a remporté le vote populaire, ce qui donne une certaine légitimité au combat démocrate pour les prochains mois et les prochaines années, selon le documentariste. Donc je vous encourage à lire ce papier, ce manifeste, j'ai envie de dire. Ça paraît un petit peu partout dans le web. Vous le trouverez aisément. Moi, je l'ai repéré sur le portail Zero Hedge. Alors voilà, le temps est déjà écoulé. Je voulais vous signaler d'autres textes écrits au lendemain de l'élection de Donald Trump. Le temps nous manque, malheureusement. On doit se rendre à l'interview. L'interview, cependant, reste dans le sujet du jour. On parle de l'élection américaine, bien sûr. J'ai rejoint un petit peu plus tôt aujourd'hui Nathalie Leduc, qui est une habituée du débrief. Nathalie, c'est une artiste qui vient occasionnellement nous parler d'art et de littérature ici au micro du débrief. Il se trouve que Nathalie voyage aux États-Unis ces jours-ci. Elle était à Los Angeles au cours de l'élection. Donc, elle a pu glaner des impressions, faire quelques observations à chaud. Et justement, j'ai voulu jaser avec elle pour recueillir ses impressions. On va écouter ça dans quelques instants à l'antenne de CILS FM 107,9. Restez à l'écoute. Vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Alors, on est au surlendemain de l'élection de Donald Trump, une élection qui a causé une commotion, une grande surprise aux États-Unis et dans le monde. J'ai la chance de pouvoir rejoindre Nathalie Leduc, une artiste de Victoria qui est une habituée du débrief. On l'a souvent accueillie au studio pour parler de ses projets artistiques et de littérature. Nathalie est sur la route aux États-Unis. On la rejoint aujourd'hui en Californie. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors, on profite du fait que tu étais aux États-Unis durant cette période électorale pour jaser des élections, connaître tes impressions, peut-être faire un petit topo pour planter le décor. Qu'est-ce qui t'a amené du côté de Los Angeles ces jours-ci?
Je suis venue pour voir des amis et voir de l'art, m'inspirer un peu pour des projets. Puis j'étais en fait sur mon chemin pour aller à Houston pour faire des portraits avec mon portrait tronc pour une performance dans le cadre d'une exposition. Alors j'ai décidé de faire un petit crochet par Los Angeles.
Formidable, ouais. Formidable. Donc Houston, ouais. Au Texas, c'est une ville que tu ouais. connais bien.
Ça va être intéressant.
Oui, ouais. Le Texas, c'est l'État républicain par excellence. Tu connais bien Houston pour ouais. avoir étudié à Tulane, je crois, et y avoir enseigné.
Non, j'ai enseigné à Tulane, qui était à la Nouvelle-Orléans, mais j'ai étudié à Rice University et à l'Université de Houston, Houston University.
Voilà, ouais. OK, merci.
Ouais, c'est ça.
Et justement, ça sert à éclairer le fait que tu connais bien les États-Unis pour y avoir vécu longtemps.
Oui.
Tu as étudié là-bas, tu as pratiqué, tu as produit ton art sur place, tu as développé ton identité ouais. d'artiste mm-hmm. aux États-Unis. Tu vis maintenant ouais. à Victoria et tu retournes occasionnellement aux États-Unis. Donc, c'est un petit ouais. peu pour cela que j'ai pensé te contacter. Je voulais avoir tes impressions suite au verdict des urnes. Les Américains ouais. ont choisi l'improbable milliardaire de l'immobilier, le très loud, le très vulgaire, disons-le. Et bon, il a plein de défauts. On fera pas la liste complète. J'aimerais savoir comment s'est passée ta soirée des élections. Est-ce que tu peux nous faire un petit compte rendu avec des impressions?
Ben, je suis allée avec, j'ai accompagné mon hôte aux urnes. Il est allé voter. Mmh. Puis il y avait presque personne en fait là où il est allé voter. Et il a fait son travail.
Oui.
Et puis après on est resté tranquille. On n'a pas regardé. On voulait pas regarder là, les résultats tout de suite. On voulait pas se mettre là, dans cette espèce de stress où tu sais quand tu regardes la télévision aux États-Unis, ils ont vraiment ce don pour essayer de retenir le suspense jusqu'à la fin puis faire croire qu'un va gagner mais l'autre va gagner. Tu sais, on a décidé de pas jouer le jeu et d'attendre au matin pour voir quel était le résultat. Donc, on a eu une soirée un peu tranquille.
Oui, d'accord. Alors, on viendra, ouais, on viendra au résultat dans un instant.
Ouais.
Tu dis que le bureau de vote était quasi désert et ça me rappelle qu'on a, ouais, vu plusieurs informations à ce sujet. Le taux d'abstention a été très élevé lors de cette élection. Clinton n'a pas pu attirer ses fidèles. Il y a eu beaucoup de désistements, des gens qui sont restés à la maison. Donc, c'est une illustration de ce phénomène. Mm. Un taux d'abstention qui approchait les 50% au cours de cette élection, donc du mardi 8 novembre. Ouais. Donc, autrement... Oui, vas-y, vas-y.
J'allais dire quand même, j'ai vu... Il me semble que Clinton a eu plus de votes là, au niveau populaire, par contre, parce que le système électoral est assez spécial aussi aux États-Unis. Hein. Mm. Mais je pense qu'elle a eu plus de votes, un peu plus de votes dans les 150 000 votes en tout, de plus que Trump. Mais comme comme ça marche pas par vote populaire, ben elle n'a pas été élue.
Exactement.
Il me semble que c'est ce que j'ai vu, c'est ça. Hein? Oui.
Absolument, tu dis vrai ouais, et tu fais bien de le signaler. Clinton a gagné le vote populaire de la même, ouais, manière que Al Gore avait remporté le vote populaire en 2000.
Le vote populaire,
mais
ouais,
finalement, ouais, avec le jeu du collège électoral, comme il l'appelle,
ouais,
c'est l'addition, ouais, des États qui porte un total de votes et du collège électoral et qui détermine le gagnant. Et ça peut arriver que le vote populaire ne coïncide pas avec,
ouais,
le résultat, ouais, final,
ouais,
effectivement.
Ouais.
Mais l'abstention, ouais, a été vraiment un problème pour Clinton. Elle a remporté le vote populaire, mais si la base démocrate et les gens de sensibilité démocrate étaient sortis en plus grand nombre, elle aurait vraisemblablement gagné l'élection avec une marge confortable. Est-ce que tu peux me décrire un peu la réaction des Américains dans l'entourage où tu étais à Los Angeles lorsqu'ils prenaient connaissance?
Oui, oui, oui. Il y a certaines personnes bon alentour bon de moi, de l'entour des gens qui sont avec moi, qui la plupart des gens n'y croient pas vraiment, en fait, mais ça se peut pas, voyons, ça a pas de bon sens, puis c'est vraiment une grosse déception pour tout le monde qui me côtoyait. Puis on a parlé je suis allée chez le chiro le matin, puis là il y a eu la conversation. Partout où on allait, les gens en parlaient un peu, mais après essayaient de passer à d'autres sujets aussi là. Mais donc chez le chiro on en a parlé, et puis aussi là, de chaque côté c'était des déceptions. Des amis, un ami qu'on est allé voir qui est sur l'aide sociale, la première question qui s'est posée, ben qu'est-ce qui va se passer avec l'aide sociale?
Oui.
Et c'est la même personne qui a fait la remarque, c'est qui après qu'il ait parlé avec mon hôte pendant à peu près, ils ont parlé pendant 5-10 minutes de Trump et comment ils étaient déçus et tout ça. Puis il se retourne vers moi puis il dit, t'as probablement l'impression d'être arrivé pendant un enterrement, c'est comme un enterrement là, tu sais, parce que c'était très très sombre. Les propos que j'entendais. Donc, il y avait cette atmosphère un peu aussi. Là. Puis,
alors, Trump a dit qu'il allait, ouais, être le président de tous les Américains, de ceux qui avaient,
ouais,
voté contre lui, comme de ceux qui avaient voté contre lui. Manifestement, il,
ouais,
n'a pas encore vendu comment dire, ce pitch de rassembleur, ça passe pas.
Mm-hmm.
Et ce que je voulais te demander aussi, c'est de me dire si tu avais vu des manifestations spontanées. On a parlé de marches spontanées,
ouais,
dans les rues de New York et de Boston, Chicago. Est-ce que vous avez vu ça aussi du côté de Los Angeles?
Oui, un petit peu, parce que hier soir, on se promenait en auto, puis on est allé du côté là, du centre-ville. Puis on a vu des gens là, qui se promenaient avec les pancartes, puis j'ai eu l'impression qu'ils cherchaient d'autres manifestants. Là. Puis on voyait beaucoup de gens en groupe se promener, puis à un moment donné, on se retourne, puis il y a juste un bloc plus loin de là où on était, on voit plein de monde courir dans la rue, avec des policiers pas loin, là, puis il y avait des policiers un peu postés à différents endroits là, dans les rues du centre-ville. Là. Mais ceux qu'on a vus n'avaient pas l'air très, très inquiets. T'sais, les policiers qui étaient là étaient assez relax. Là. Mais on a vu des gens courir dans la rue, puis on s'est dit, bon, est-ce qu'on va se mettre en plein dans le milieu ou on va de l'autre bord? On est allé de l'autre bord, là, parce qu'on ne voulait pas. Quand même, mais oui, il y avait des gens qui ont manifesté. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait eu quelqu'un qui avait eu une effigie de Trump qui avait été brûlée. Et puis, ce qu'on a vu aussi, on est allé dans un marché, dans un endroit où il y a un grand marché mexicain. Puis il y a plein de, tu sais, c'est comme un marché aux puces. Puis il y a plein de choses à acheter. Puis il y avait un endroit où ils vendaient des piñatas en forme de Trump. Et ça, on a trouvé ça tellement drôle. On s'est dit, on devrait aller en chercher une et puis la donner aux manifestants. Là, mais, bon.
C'est quoi un piñata pour nos auditeurs?
Une piñata, c'est une petite sculpture, souvent faite en carton, en papier mâché, oui, avec des bonbons à l'intérieur. Et puis, on l'utilise dans les fêtes. Pour enfants, on le pend à un arbre et quelqu'un tire sur une corde pour faire monter et descendre la piñata. Et l'enfant, avec les yeux bandés, doit taper sur la piñata avec un bâton pour la briser et pour avoir les bonbons qui sont à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose de très populaire chez les enfants. Puis, t'en as de toutes sortes de formes. Et puis ben là pour les élections, il y en avait en forme de Trump. Puis là aujourd'hui, on se promenait encore, puis on a vu un autre endroit où il y avait des piñatas de Trump aussi, qui sont assez chers. Tu sais, ça va de 17 à 25 $ dépendant de la taille. Hein. Mais en tout cas, on a trouvé ça un peu comique. Là, puis on a vu déjà là, des signes. Par exemple, il y avait un petit poster qui disait impeach. Toi, avec la photo de Trump, on a vu un truc qui disait the gentrifier are mini Trumps. On a vu d'autres façons de protester aussi, ouais.
Les gentrificateurs
sont des mini Trumps, ouais. Parce que ici, il y a beaucoup de gentrification qui se passe à Los Angeles. Alors, est-ce que je peux rajouter une petite chose que j'ai remarqué? Hier soir, on s'est promené ben, justement là dans le marché mexicain, puis on a rencontré une troupe de théâtre. Et ça, c'était assez surréel, un peu comment on les a rencontrés. Puis cet homme est venu vers nous, puis il a commencé à nous parler tout de suite. Il était habillé là avec un truc super brillant, puis une vieille, le genre de perruque, là, du genre Louis XIV, avec de la poudre partout, là. Puis, il s'apprêtait à faire une pièce de théâtre, et puis il nous a demandé pour qui on avait voté. Ben moi, comme j'ai pas voté, je suis canadienne, mon ami lui a dit. Puis on a entamé la conversation, puis il était content de parler à quelqu'un qui avait pas voté pour Trump. Et il nous a dit qu'il était très étonné parce que parmi les gens qui étaient avec lui, qui étaient plutôt mexicains, lui est d'origine mexicaine et arménienne, il y avait beaucoup de monde qui avait voté pour Trump. Et ça l'horrifiait parce que à cause des propos de Trump complètement là, anti-mexicains, très raciaux, qu'il avait prononcé. Donc enfin, je voulais aussi dire ça, qu'il y avait cette tendance même là, parmi là, des gens qui normalement on pourrait penser que ces gens auraient voté d'une autre façon. Oui, et peut-être qu'ils savent pas vraiment quels sont les enjeux. Ou je sais pas, je suis un peu sidérée par ça, là, mais bon. Et puis il faudra voir aussi comment les autres personnes de son parti travaillent avec lui aussi, parce qu'il quand même s'il est président, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas tout seul, puis il peut pas. Je pense qu'il ne peut pas devenir complètement dictateur. Ce serait, il mettrait sa vie en danger, je pense.
Voilà, merci Nathalie Leduc, artiste de Victoria de passage à Los Angeles. Nous avons joint Nathalie un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est déjà tout pour l'émission Le Débrief. Merci de nous avoir écoutés en direct ou en rediffusion. Je signale que la prolongation du Radioton de CILS est terminée. Les gagnants des nombreux prix seront annoncés au retour du long week-end, lundi 14 novembre, dans l'émission Le Débrief. Bonne soirée à tous et à très bientôt.